Anne Siro, Raphaël Balboni, bonjour. Donc vous avez votre film, le dernier en date, Le syndrome des amours passés, qui s'est présenté en séance spéciale à la semaine de la critique, après le succès retentissant d'Une vie démente. Je me suis rendu compte finalement que on trouvait dans vos thèmes cette envie d'enfanter et puis l'amour du couple avec un grand H, mais qui était souvent perturbé, que ça soit par la démence sémantique, et ici ce serait plutôt par les fantômes du passé, non ? Du style Julie, Céline, Nora, Romain et les autres.
Alors les fantômes du passé peut-être pas, mais c'est sûr qu'au travers de cette aventure, ils vont être amenés à être confrontés à beaucoup de spectres de l'hétéronormativité.
Heureusement finalement il y a quand même des experts danois qui expliquent pas mal de choses, et c'est comme ça qu'on va peut-être expliquer pourquoi Rémi et Sandra ne savent pas avoir d'enfants.
Ben, en fait, ils sont atteints d'un syndrome qui s'appelle le syndrome des amours passés. Et pour pouvoir avoir un enfant, ils doivent juste recoucher une fois avec tous leurs ex.
C'est la thérapie.
Voilà.
Mais c'est, en fait, quand on vous entend, on a l'impression que c'est tellement simple, tellement évident. Mais je me demande quand même si dans notre quotidien, si on passait par cette thérapie, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de couples qui tiennent le coup, non ?
Ah, je pense que c'est assez himalayesque. C'est une vraie randonnée qui ne va pas forcément bien se finir, on va voir.
Et on le voit bien quand on pitch le film à des gens, la réaction de certains, c'est assez drôle de voir que... ce serait pas toujours évident.
Et pourtant, c'est une question finalement universelle. Est-ce que j'ai fait le bon choix, non ?
Peut-être... Qui sont les gens qui ont fait de moi
ce
que je suis, ou qui sont les gens qui ont fait de moi l'amoureux ou l'amoureuse que je suis aujourd'hui.
Quel a été l'élément déclencheur dans au niveau d'écriture pour, vous avez fait une étude de marché, vous avez été voir des statistiques
Non, on avait rencontré une...
Quand on était un peu dans les premières recherches sur le projet, c'était intéressant parce qu'on avait rencontré une gynécologue qui était spécialisée dans les fertilisations compliquées, les grossesses compliquées, par exemple chez
des femmes plus âgées.
Chez des femmes plus âgées ou chez des...
Qui avait acheté des paillettes en Espagne et qui les...
Qui s'est beaucoup intéressée en fait à tous ces cas... À toutes les grossesses qui passaient moins par l'autoroute de la fécondation. Et sa réflexion était hyper intéressante. Elle questionnait d'ailleurs, elle aussi, beaucoup le pourquoi. Elle disait, parfois on se demande pourquoi tant d'acharnement, pourquoi vouloir absolument avoir un enfant biologique. Ça amène plein de questions quand on est comme ça... en discussion avec les personnes, même du milieu médical, qui s'attaquent à ces types de problèmes. Ça pose la question de pourquoi ce désir, voire même pourquoi cette injonction.
Et dans cette thérapie, quelle est la place de la fidélité ?
En tout cas, sans vouloir spoiler trop le film, il y a justement, enfin, en tout cas, forcément, cette thérapie... demande aux deux conjoints d'aller retrouver leurs ex. Et en tout cas, la blague au début du film, c'est que forcément, ils n'ont pas le même nombre d'ex. Et que ça pose tout de suite problème et question, c'est que lui a très peu d'ex, il a connu trois femmes et qu'elle en a connu beaucoup plus. Il y a toujours tout de suite ce déséquilibre qui se met en place.
Moi, je pense que ça questionne pas mal la notion de fidélité, dans le sens où je pense que c'est quand même un couple qui est très loyal. Il y a une vraie... je pense que dans ces personnages-là, ou dans ce couple de personnages, il y a la valeur de la loyauté est très forte, je pense.
Plus que la fidélité, finalement.
Oui, mais du coup, ça se répond un peu. On se dit... ça interroge aussi ça. Et qu'est-ce que c'est que d'être loyal ? Qu'est-ce que c'est que d'être fidèle ?
Et donc, outre l'amour, donc finalement, il y a le sexe et notamment les performances qui... Il y a des sujets quand même qui interpellent quand même.
Disons qu'on a...
Ça n'a pas nécessairement de soi. Enfin, c'est... ou au contraire, c'est lié
Performance, c'est-à-dire
ben, bon, au niveau sexuel.
Les performances sexuelles.
Ouais.
Il n'y a pas vraiment.
En fait, on les a figurées. On a décidé que toutes les scènes censées représenter de la sexualité étaient très métaphoriques. Donc on s'est vraiment amusé, on a travaillé de concert avec un chorégraphe, le chef décorateur, le chef costumier, les acteurs, les actrices. Et on a créé chaque fois des images figurées pour avoir des sensations ou des dimensions du sexe qu'on n'aurait pas pu avoir dans une scène filmée de façon trop frontale ou trop concrète.
C'est vrai qu'il y a le côté esthétique qu'on avait adoré dans Évidemment. Je suppose que vous avez prolongé dans le syndrome.
Oui, notamment toutes ces, nous on appelle ça les métaphores, donc tous ces actes sexuels qui sont représentés de manière métaphorique et décalée. On peut, oui, il y a quelque chose de l'ordre de, enfin c'est très graphique, c'est très symbolique, c'est très, on s'est beaucoup amusé avec toute l'équipe pour créer des images un peu fortes, un peu décalées, qu'on retrouve déjà l'affiche, c'est ça, enfin le visuel qui circule en tout cas, ce sera pas l'affiche, mais le visuel qu'on a sorti, cette image très rose, on est déjà dans une métaphore, on est déjà dans quelque chose de très décalé.
Alors, beaucoup d'humour, comme dans le premier film, mais en même temps, des moments dramatiques.
Oui, parce que le couple, ça va pas être si simple, forcément.
Je pense que nous, on a vraiment notre idée de la comédie, c'est qu'elle fonctionne souvent sur fond de drame. Qu'il y a une espèce d'alliance dans la vie entre le burlesque et le tragique. C'est des choses qui vont parfois ensemble. Et là, oui, ils sont amenés à vivre quelque chose de très ubuesque à cause de leur situation. Et ça va les mettre, ça va les pousser dans leur retranchement. Mais les retranchements, c'est parfois intéressant.
L'impro, c'est une grande part
Alors ça, c'est comme sur une Évidemment, ou comme sur les courts-métrages qu'on a fait avant, enfin certains. C'est-à-dire qu'on travaille très en amont avec les acteurs. On a passé 2 ans avec eux à répéter. On ne s'est pas vu tous les jours, mais pendant 2 ans, on s'est vu, je crois, 25 fois en tout. Et donc, on se voit, on a un texte, on part d'un texte, mais qui n'est pas dialogué. Et on les met en situation autour de ce texte, avec parfois des lignes de dialogue, mais très peu. Et là, ils improvisent, ou
ils expérimentent
autour de la situation. Et puis, on va filmer ces scènes, on va les monter, et puis on va réécrire un texte à partir de ça. Et comme ça, par couches successives, on va avancer. Donc quand ils arrivent au tournage, on a déjà répété, rejoué la scène plein de fois, mais il n'y a toujours pas de ligne de dialogue. Mais c'est très écrit. Donc c'est un mélange entre une situation faite et refaite et refaite par les acteurs, à partir d'un texte assez écrit, mais ils ne vont jamais le redire de la même manière. Ça va toujours être... Ils vont enfiler les perles de manière à chaque fois.
Ils n'ont pas de texte à apprendre.
Oui.
Mais... Par contre,
chorégraphie.
Ils ont déjà répété plusieurs fois les scènes, notamment les plus importantes, et dans les décors. Donc quelque part, ils ont quand même, ils ont en tête le décor dans lequel ils vont évoluer. La scène, ils l'ont déjà dans leur tête et dans leur corps plusieurs fois. Donc ensuite, on doit repasser par le petit trajet, retrouver les mêmes balises. Ils savent ce qu'ils jouent dans la scène et puis ce qu'ils doivent se dire, par où ils doivent en passer,
Mais on construit très fort les choses à partir de leurs propositions aussi, des accidents, des choses qui se passent quand la Ninon Borsay, elle jouait dans notre court-métrage Des choses en commun, elle joue la sœur de Lucie Debay, et elle vient en répétition avec un bouquet de fleurs qu'elle nous amène. Elle dit j'ai ramassé ça sur un rond-point, il y avait plein de fleurs sauvages.
Elle nous a amené le gros bouquet de jonquilles du rond-point, quoi.
Et on s'est dit mais c'est génial, et ça colle très bien à son personnage, et du coup on a remis ça dans le film.
Et c'est la déco d'ailleurs, parce qu'en fait comme nous on transmet comme on filme nos répètes qu'on les monte, il y a quand même un brouillon du film. Et du coup c'est un outil hyper intéressant pour communiquer avec l'équipe, et je pense que c'est la déco qui a vu ça dans la maquette et qui a dit mais
c'est
ces
super,
fleurs de rond-point ça colle complètement avec le personnage de Justine. La sœur de
vous avez été replanter les jonquilles.
Ils sont allés chercher des fleurs des champs. Mais vraiment, ils sont allés chercher fleurs des champs pour avoir aussi ce look de fleurs, qui vient pas de chez le fleuriste.
Donc on parlait justement donc de Lucie Debay que vous retrouvez ici dans le rôle de Sandra. Et pour Rémi, donc Lazare Gousseau, expliquez-nous un petit peu votre choix.
Lazare Gousseau, nous on l'a vu chez Rachel Lang, dans un film de Rachel Lang, Baden Baden. Et on l'avait trouvé très drôle, et donc on l'a rencontré à l'époque pour un autre projet, enfin non, pour ce projet-là.
En fait, c'était pour ce projet-là, mais qu'on voulait, ouais, qu'on voulait tenter dans un autre format. Et on avait fait une journée d'essai, et du coup, on lui avait demandé d'y participer parce qu'on l'avait vraiment aimé dans le film de Rachet. Et c'est vraiment à partir de là, quoi.
Ouais.
Alors, deux petits mots aussi, Nora Hamzaoui. Expliquez-nous un petit peu votre choix, de même que Alice Dutoit. C'est suite à Yann Bucquois que vous l'avez engagé.
Alors, non, moi, en fait, Alice, on l'a rencontrée. Enfin, moi, je l'avais croisée sur une émission de télé sur laquelle je travaillais. Et on s'était vachement bien entendu. Et du coup, quand on nous a proposé d'animer un stage de jeu d'acteur au Centre Léonie Bruxelles à Paris. Et on nous a dit, vous pouvez demander aux acteurs que vous voulez. Puisque c'est gratuit, c'est payé par la fédération ou le centre du cinéma, ou je ne sais pas.
Je crois que le centre de Bruxelles offrait le transport et le gîte aux acteurs
belges.
Ils pouvaient vivre ce stage de façon gratuite
des fois. Une bonne opportunité.
Voilà. Et c'est Louis Elio qui gérait ça. Ouais. Et on lui a dit, nous, on a rencontré Alice Dutoit, on la trouve géniale, est-ce qu'on peut lui proposer? Et il était dit, mais oui, super, en plus, elle vient de faire un film, elle est géniale. Et donc, on a proposé à Alice et à Franck Onana, qui joue aussi dans le film. Et on avait passé une semaine à Paris avec eux. Et ça s'est super bien passé avec Alice. On a beaucoup aimé travailler avec elle. Et donc, on lui a proposé ce rôle.
Et Nora ?
Alors, Nora Hamzaoui. Alors, elle, c'était... je pense que c'est plus... On l'a eu de façon plus traditionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'on... je crois que c'est la production nous l'a
proposé,
suggéré.
Ouais. Parce que on a eu le CNC très tard, et donc d'un coup il fallait l'équipe devait être aussi en partie française, et le casting n'était pas terminé. Enfin, même si on fait pas de casting, enfin le choix des acteurs n'était pas terminé, et du coup il restait des rôles, notamment le rôle
de la sœur,
de Marion, et du coup la prod nous a suggéré Nora qu'on connaissait pas. On connaissait ses chroniques, mais on la connaissait pas personnellement. Et ça a été une super rencontre.
Ouais, vraiment, c'était génial. C'était vraiment génial. Et c'était super parce que nous, on connaissait ses chroniques, mais on l'avait jamais vu jouer dans une fiction.
Ouais.
Et puis avec son partenaire de jeu, il y a quelque chose aussi qui a très bien cliqué. Et on est hyper content de l'énergie frère-sœur qu'ils ont. Quoi.
Ouais.
Alors le film est produit par Hélicotron, donc. Julie doit être contente quand même maintenant avec cette nomination cannoise. Je suppose que le succès d'Une vie démente a quand même facilité le financement de votre film, les médias.
En fait, il y a eu un truc de timing qui nous a été favorable. C'est que, en fait, nous, ce projet-là, il est antérieur à Une vie démente. On avait déjà commencé de l'écrire avant. Et du coup, quand on a fini Une vie démente, on s'y est remis.
C'est ça.
Et du coup, on partait pas de zéro, quoi. On avait déjà un projet qui était bien dans les tubes, même s'il n'était pas encore trouvé, complètement stabilisé. On avait déjà une bonne base de travail. Et puis, il y a eu la pandémie qui nous a quand même cloîtrés chez nous avec des couvre-feux à 22h et des plus 1 et des personnes qu'on pouvait voir et tout ça. Donc, on a un peu profité de cette hibernation covidienne pour avancer. Et du coup, quand Une vie démente est sortie, on avait déjà un projet à propos. Enfin, quelque part, il y a eu...
Bien avancé.
Ça s'est bien télescopé entre la visibilité d'Une vie démente et le projet après, où on avait déjà des choses à faire lire.
Donc, on rappelle le syndrome des amours passés à la semaine de la critique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.